dans Matthieu 19, on voit à nouveau l'une de ces tentatives maladroites de la part des pharisiens, tester Jésus, d'éprouver Jésus, de piéger Jésus sur une question très importante. Et dans verset 3, ils disent, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus répondit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors je vous propose dans ce message, dans le message qui suivra à 20h30, de voir un ensemble où l'on trouve l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour, le véritable amour. Le véritable amour ne consiste pas à dire « je te veux, je te désire, je te convoite et donc je te prends hein. ». Ce qui est, semble-t-il, la formule du cinéma et de beaucoup de jeunes maintenant, hein, et de moins jeunes. Parce qu'attention, hein, je crois qu'on parle beaucoup des jeunes et des jeunes, mais quand on regarde les générations plus âgées, on voit exactement les mêmes choses se produire. Ensuite, la sexualité, est-ce que c'est mauvais cette sexualité? Est-ce qu'il faut la prostituer? Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est une malédiction? Ou est-ce que c'est quelque chose de bon? Dans quel cadre? Et évidemment, le mariage. Pourquoi encore le mariage? Aujourd'hui, beaucoup de gens choisissent la cohésitation, hein, et au lieu de se marier. Pourquoi est-ce qu'il est important de se marier? Donc, avec l'inexorable paganisation, hein, de la société occidentale au cours du XXe siècle, les idées païennes sont partout maintenant. L'idole du corps, hein, l'idole de la nature est devenue franchement plus importante que le respect de la vie humaine, hein. C'est pour ça qu'on peut tuer des milliers et des millions et des millions d'enfants, et puis se soucier des grenouilles. Il y a une démesure dans tout ce que l'on voit, dans tout ce que l'on fait aujourd'hui. Il y a une paganisation de la société, l'exacerbation aussi de la démarche égocentrique, moi, depuis, oh, je dirais, moi j'ai observé la chose depuis mai 68, ça devait exister avant, parce que l'égoïsme n'a pas été inventé en 68, il existait bien avant. Mais on voit vraiment, à partir de 68, l'idée que l'individu se détermine sans tenir compte des gens autour de lui. Donc, depuis, avec cette paganisation, avec cette exacerbation de l'égocentrisme, la sexualité est radicalement sortie du cadre, pourtant parfaitement appropriée et déterminée par Dieu, acceptée pendant des siècles et des siècles par l'essentiel de la société. Il y avait certes quelques excentriques ça et là, hein, qui choisissaient de faire autre chose, mais dans son ensemble, la société acceptait ce cadre du mariage. La sexualité est radicalement sortie de ce cadre. Observez la chose autour de vous. Même l'enseignement traditionnel des églises est sérieusement battu en brèche de l'extérieur. Ça ne nous étonne pas, mais souvent par des gens qui fréquentent ces mêmes églises. On parle souvent de tradition judéo-chrétienne. Et aujourd'hui, la tradition judéo-chrétienne qui évoque désormais avec un ton narquois les journalistes, les sociologues, les psychologues, cette tradition judéo-chrétienne est jugée archaïque, inadaptée, souvent même absurde, surtout par exemple lorsqu'elle exige la chasteté en dehors du mariage, et même pour des fiancés avant le mariage. La conception judéo-chrétienne est accusée par les humanistes, par les psychologues, d'être à l'origine de multiples névroses, de souffrances, de frigidité, d'impuissance, et heureusement s'empresse d'exulter les critiques humanistes. La libération sexuelle, qui va de soi dans le cinéma, la télévision, les romans et dans les modèles sociaux qu'offrent les vedettes du spectacle, eh bien cette libération sexuelle a fait sortir le sexe du ghetto, où les églises le tenaient prisonnier. Ce n'est pas mon langage, hein, vous comprenez bien. Partant de là, certains pensent, n'est-il pas anachronique d'examiner l'enseignement de la Bible sur la question de l'amour, de la sexualité, du mariage, n'est-il pas anachronique de faire cela au XXIe siècle et de lui conférer encore une valeur normative, c'est-à-dire que ce sont des choses qui s'imposent à nous. Vouloir défendre l'enseignement de la Bible sur des questions de sexualité, n'est-ce pas aujourd'hui plaider une cause perdue, et comme cela, quelques-uns d'entre vous ont peut-être ce sentiment. Moi, je ne l'ai pas. Je n'ai pas le sentiment qu'on est en train de plaider une cause perdue. Loin de là. Non seulement il est nécessaire pour soi-même, hein, d'approprier les valeurs transmises par la Bible, mais je dirais qu'il y a là matière urgente pour nos enfants et pour nos églises et pour nos congénères, pour les gens qui sont autour de nous. Moi, je suis convaincu qu'ils ont besoin de voir ce qu'est le modèle de l'amour, de la vraie sexualité et du mariage, selon Dieu. Alors, avec mes collaborateurs de l'Institut, j'en suis convaincu, hein, et ce pour plusieurs raisons. La plus importante étant que, en tant que chrétien bibliciste, qu'est-ce que j'entends par bibliciste? Attaché à la parole de Dieu, pas simplement intellectuellement, mais attaché à la parole de Dieu, je dirais viscéralement. C'est notre vie, c'est notre façon d'être. Disciples de Jésus-Christ. Nous croyons que la Bible est pleinement inspirée par le Dieu, créateur du monde, et vous ? Et que son message est donc vrai pour les êtres humains de tous les temps et de toutes les sociétés. On n'a pas un autre schéma pour l'Afrique, on n'a pas un autre schéma pour les gens du XXIe siècle. C'est toujours la parole de Dieu avec les normes de pureté et de sainteté de Dieu qui s'imposent à nous. Nous ajoutons que Dieu est véritablement honoré jusqu'à ce que soit pleinement accepté l'ensemble des critères divins de la pureté sexuelle. Je suis saint, dit Dieu, vous aussi soyez saints. On a du chemin. On a une marque de progression. Je n'en disconviens pas. Il faut s'engager dans cette voie. Il est vital que les chrétiens bibliques expliquent avec beaucoup plus de netteté ce qu'est l'enseignement de la parole de Dieu sur la sexualité, en se démarquant tout à la fois de, je dirais, de la turpitude dans laquelle le monde s'est plongé, mais aussi, il s'agit pour nous de nous démarquer de la caricature que l'on présente souvent, de ce que l'on appelle la tradition judéo-chrétienne. Ah, vous croyez dans la Bible, et aussitôt on fait une caricature de ce qu'est le mariage, de ce qu'est la sexualité dans ce cadre-là. Alors, la tradition dite judéo-chrétienne, avant même d'examiner l'enseignement biblique, ce que nous ferons dans le cadre de ces messages, remettons immédiatement les pendules à l'heure. Il me semble que de la perspective du christianisme biblique, la contestation de la tradition judéo-chrétienne doit être elle-même sérieusement contestée, et ce à plusieurs titres. D'abord en disant que on a parlé tout à l'heure de libération sexuelle. D'abord en disant ceci. La réalité de la libération engendrée par la libération sexuelle doit être contestée. Est-ce qu'il y a vraiment liberté dans le style de vie qui a été adopté par pas mal de gens dans notre société? Dans un ouvrage qui rassemble les résultats de nombreux sondages, de nombreuses enquêtes, je pense que vous en avez entendu parler, ça s'appelle Francoscopie, ça touche à beaucoup de choses, peut-être que certains de mes confrères, la pasteur, disposent de ce livre. Dans son ouvrage Francoscopie, Gérard Mermet, après avoir longuement débattu la chose, dit « La révolution sexuelle n'a pas apporté le bonheur attendu. » Vous avez bien entendu. La révolution sexuelle n'a pas apporté le bonheur attendu. C'est sans doute ce qui explique l'espèce de déconvenue actuelle vis-à-vis du sexe et donc des tentatives dans d'autres directions. Il existe beaucoup de frustration, il existe beaucoup de crainte parmi les soi-disant libérés. C'est la première réserve que je voulais faire, qui doit être faite. Il n'y a aucun bonheur à vivre de manière dissolue. Voici la seconde. c'est que la tradition dite judéo-chrétienne a été grossièrement caricaturée. Et beaucoup de distorsions qui se sont produites dans les religions ont été indûment imputées à la parole de Dieu. Non pas à la religion, mais à la parole de Dieu. Des distorsions qu'on appelle à tort judéo-chrétiennes, tradition judéo-chrétienne, à savoir celle qui émane du catholicisme médiéval, hein, du sectarisme, ont contribué à susciter chez certaines générations passées la peur du sexe, la mise au cachot, une culpabilisation excessive, mais que cela ça soit clair, hein, cela n'est absolument pas le cas chez ceux qui ont suivi jadis et chez ceux qui suivent aujourd'hui encore l'enseignement qu'apporte la parole de Dieu au sujet de l'amour, au sujet de la sexualité, au sujet du mariage. Je peux vous garantir que je suis un homme parfaitement heureux dans mon mariage, dans ma vie intime, dans le cadre des promesses que j'ai faites à mon épouse. Je suis parfaitement heureux. Et c'est une réalité, ça. C'est une réalité biblique. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Or, c'est de l'enseignement biblique que nous voulons parler au cours de ces journées, la vérité dans l'amour, et non des divers visages qu'a pu prendre au cours des siècles l'enseignement des églises de multitudes. Ce que j'entends par église de multitudes, celles qui ont l'habitude de jeter de l'eau comme ça, en disant maintenant t'es chrétien, maintenant t'es croyant, et le mioche a 6 mois, hein, il a 3 semaines, il a 4 semaines, il est devenu chrétien par une espèce de coup de baguette là. Ça, ce sont les églises de multitudes, ça. Lequel enseignement n'a jamais été homogène, si bien qu'au lieu de parler de tradition judéo-chrétienne, il serait plus juste de parler au pluriel de tradition religieuse sur la sexualité. Ainsi, on confond volontiers avec l'enseignement biblique certaines manifestations, historiques, hein, de la morale religieuse, comme par exemple la pudibonderie qui existait au XVIIIe siècle au Portugal. Est-ce que ma belle-fille est là? Tant mieux. Ne la ramenez pas, de grâce. Au XVIIIe siècle, au Portugal, montrer sa cheville était un acte indécent et immoral. Montrer sa cheville. Et il n'est pas étonnant, hein, il n'est pas étonnant qu'on trouve des ouvrages. J'en ai vu un récemment, c'était l'histoire de l'amour en France. Guy Richard en était l'auteur et il disait le mariage, écoutez bien ce qu'il dit, hein, ça m'a fait faire des bonds dans mon bureau, je ne sais pas si les étudiants m'ont entendu, mais j'ai fait des bonds. Hein. Le mariage n'est-il pas lui-même entaché par l'impureté constitutionnelle de la femme dont saint Paul et saint Augustin se sont fait des apôtres? L'impureté constitutionnelle de la femme dont Paul se fait apôtre? Où est-ce qu'il a été chercher ça? Où est-ce qu'il a été chercher ça? Cela révèle une incroyable méconnaissance de l'enseignement biblique dispensé par l'apôtre Paul. Bon, je serai le dernier à contester que dans l'histoire des religions dominantes de notre pays, vous les connaissez, une attitude craintive à l'égard de la sexualité ne se soit souvent observée, on l'a vu. Hein. Moi, je sais qu'il y avait des couples, même quand j'étais très jeune, hein, dans le catholicisme, qui considéraient que la sexualité dans le couple, c'était simplement pour procréer. Hein, on ne faisait pas ça pour autre chose que procréer. Alors, on ne sait pas comment on dit. Bon. Mais cette attitude craintive n'a pas ses racines dans la Bible. Dans la religion, peut-être, mais pas dans la Bible. Et souvent dans des courants de pensée étrangers, totalement étrangers à la tradition biblique, qu'elle soit juive ou chrétienne. Et il faut savoir que l'éthique chrétienne, la conduite chrétienne, a constamment subi les assauts d'influences externes, philosophiques, religieuses, lesquelles ont parfois lourdement dénaturé les notions de sexualité, de mariage, etc. Et que déjà, à l'époque de l'apôtre du Nouveau Testament, les auteurs sacrés se sont employés à corriger des aberrations. Il y en avait beaucoup. ces aberrations à Corinthe. Les Corinthiens étaient convaincus que maintenant, puisqu'ils étaient chrétiens, il n'était plus vraiment nécessaire de rester avec un époux inconverti ou une épouse inconvertie. Il y avait toutes sortes d'idées tordues. Hein. Maintenant, on n'a plus de sexualité, on n'a plus de couple, on n'a plus de famille, on n'a plus rien. Heureusement que l'apôtre Paul est passé par là pour écrire chapitre 7 et remettre les choses à plat. D'émanation grecque ou d'émanation orientale, des notions biscornues, soupçonnaient le corps, donc la sexualité, d'être mauvais en soi. Cette intrusion fut telle que l'apôtre Jean dut lutter contre l'idée que Christ n'avait pu s'incarner dans un corps humain. Comment il s'appelait cela? Les docettes, je crois. Hein? Christ ne pouvait pas, il ne s'est pas incarné dans un vrai corps, ce corps mauvais. Et l'apôtre Paul traitait ceux qui prétendaient que le mariage était mauvais, dont Timothée, il les a traités d'esprits séducteurs, ceux qui prescrivent de ne pas se marier. Ils étaient inspirés par les démons. Vous voyez, enfin, juste au moment où je parle de ça. La vita revient. Le Seigneur vous bénisse et vous protège. Donc, Paul ajoutait dans la foulée que tout ce que Dieu avait créé était bon, que rien n'était à rejeter, que Dieu avait créé toutes choses pour que nous en bénéficions. Alors, cette philosophie, paganisme, ont voulu pervertir le christianisme. Je ne sais pas si vous connaissez bien vos philosophes. Moi, j'en ai écrit, malheureusement, avant de devenir chrétien à 21 ans, Dieu merci. J'étais pétri de philosophie, j'ai étudié les philosophies très tôt dans ma vie. Et le dualisme de Platon, le dualisme platonicien, et plus encore gnostique, voyait dans le corps la prison de l'âme. Le corps emprisonnait l'âme. L'âme était bonne, pure, sereine, etc. Et le corps était mauvais, et c'est ce qui entachait l'âme. Un auteur du 4e siècle avant Jésus-Christ a écrit la chose suivante. Les voluptés du corps sont le plus funeste fléau que les hommes aient reçu de la nature. Cicéron, lui, écrit ceci. Le désir, il faut le détruire, l'extirper jusqu'à la racine. C'est archi faux. Heureusement que Dieu a placé de saints désirs dans mon cœur vis-à-vis de mon épouse, un prince et tout. Heureusement. J'aspire à être avec elle. J'aspire à être dans l'intimité avec mon épouse. Il n'y a rien de funeste en cela. Reconnaissons-le, proclamons-le. Il ne s'agit pas ici de tradition chrétienne, mais de philosophie humaine. Cette philosophie dont l'apôtre Paul disait que personne ne vous séduise par la philosophie. Hein. Revenez vers Christ. Revenez constamment vers Christ. Que ça et là, des églises aient flirté également avec des notions analogues, compte tenu du contexte particulièrement saumâtre, particulièrement nauséabond là, du 1er siècle, hein, dans lequel s'inscrivaient ces églises, soit cela s'explique principalement par le besoin où elles se trouvaient de lutter contre l'effroyable dérèglement des mœurs à Corinthe et ailleurs. Hein. Vous savez que quand on voulait décrire quelqu'un comme un dépravé de la pire espèce, on disait Corinthien. Corinthe avait cette réputation. La Rome de Néron était particulièrement pervertie. Et dans cette lutte, les églises ont trouvé des alliés, mais des alliés fâcheux, dans le stoïcisme. Je ne laisse apparaître aucun de mes sentiments, ni la haine, ni l'amour, ni quoi que ce soit. Je suis stoïque. Et le platonisme, donc on en a déjà parlé, hein, cette dualité entre le corps et l'âme, antagoniste, hein, contraire, qui se combattent. Et par peur de cette contagion ambiante, de l'immoralité ambiante, par peur aussi de paraître manqué de hauteur spirituelle, là, en attachant trop d'importance au corps, certaines églises locales ont glissé vers un certain mépris du corps. Et ça a dérapé jusqu'à ce qu'on trouve des moines qui s'est installé sur des proteaux, hein, qui vont rester 40 ans sur un proteau. On leur a apporté de la nourriture, une corde, et puis ils mangeaient sur leur proteau, ils dormaient sur leur piton, ils descendaient jamais, ils n'arrivaient jamais non plus. Tout ça par stoïcisme, par séparation d'avec le monde, et le corps est mauvais, etc. Mépris du corps, qui n'avait rien de biblique. Il n'y a rien de biblique dans ces choses. Qui est-ce qui l'a prévenu? Voilà, voilà ma belle fille portugaise qui vient. Qui est-ce qui l'a prévenu? Ajoutons, pour être concret, que cette réaction contre la licence des mœurs, la dissolution des mœurs, n'était pas spécifique aux chrétiens, n'était pas propre aux chrétiens. Les grands empereurs romains du IIe siècle, je pense à Antonin, je pense à Marc Aurèle, ont également jugé nécessaire de moraliser la société, qui était devenue complètement dévergondée. En fait, tout au long de l'histoire, toutes les civilisations se sont efforcées d'apporter une réglementation, d'apporter un cadre au comportement sexuel des humains, à cause de l'instabilité des pulsions sexuelles et des excès auxquels elles peuvent conduire. Ceci ne souffre aucune contestation. Une grande partie des outrances que l'on reproche à la tradition judéo-chrétienne ne sont pas bibliques et apparaissent être en fait des phénomènes philosophiques quasi universels. Alors il existe une approche spécifiquement chrétienne de la sexualité. C'est celle que l'on trouve dans la Bible. Nous allons l'examiner globalement pour bien encadrer ces messages de, durant les journées de la vérité de l'amour. Hein. Alors, la Bible et la sexualité, soit dit donc. La Bible n'est pas un manuel de morale. C'est un livre, c'est une révélation de Dieu aux hommes où il se révèle dans sa perfection, il se révèle dans sa sainteté et invite les hommes à vivre dans sa pureté, dans sa sainteté, dans sa droiture. Mais ce n'est pas un livre, ce n'est pas un manuel de morale. On n'y trouve pas un chapitre sur la sexualité qui nous donnerait toutes les réponses aux questions que nous nous posons. Comme vous le savez, la Bible est une vaste bibliothèque composée de 66 livres très divers, écrits au cours d'une longue période. Il ne faut donc pas s'étonner si on trouve des approches différentes, des éclairages divers sur la sexualité ou la conception de la sexualité et le mariage. Mais malgré ces quelques variantes que l'on observe ça et là, et qui s'expliquent par contexte historique et par la révélation progressive de Dieu, il y a une véritable cohérence dans ce que Dieu propose aux hommes en termes d'amour, en termes de sexualité, en termes de mariage. Je ferai plusieurs remarques. La sexualité est voulue par Dieu. Elle est voulue par Dieu. La première chose qui apparaît clairement et de façon constante, c'est que la sexualité humaine, et par sexualité, il ne s'agit pas de limiter ça maintenant au rapport, mais à tout ce qui fait l'attirance d'un homme pour une femme, vers une femme, une femme vers un homme, qui fait qu'ils s'entendent bien, qu'il y a des atomes crochus, genre j'utilise le mot sexualité dans un terme bien plus vaste que simplement l'intimité des corps. Mais la sexualité humaine fait partie de la volonté du Créateur. Dans le premier chapitre de la Genèse, nous lisons que Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle, il les créa. Et quelques lignes plus loin, il est dit, Dieu vit ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Cela était très bon. Dans le chapitre suivant de Genèse, le Créateur déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai donc une aide qui sera sa semblable, son aide, son vis-à-vis. Son vis-à-vis, c'est le terme qui convient en fait de bien mieux, hein, d'un point de vue exégétique. Et c'est la femme qui est donnée à l'homme, et qui est pour lui source de joie, et son mari est pour elle source de joie. Et là encore, la sexualité est présentée comme une bonne chose. L'homme s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est là ce que Dieu désirait pour l'humanité. Jamais, 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 dans toute la Bible, la sexualité n'apparaît comme quelque chose de mauvais, un raté de la création. Ce que j'aimerais, c'est que vous repartiez avec une saine idée de la sexualité. non pas tout ce qui est sexuel est abominable. Merci de m'avoir retenu. Hein? Vous repartiez avec la version platonicienne de la sexualité. Elle est voulue par Dieu. Et donc, mépriser la sexualité, la considérer comme étant honteuse, c'est faire injure à l'intention du Créateur. C'est faire injure à l'intention de Dieu. Nous devons au contraire la recevoir comme un extraordinaire don de Dieu à l'humanité. Puisque nous parlons du livre de la Genèse, il nous faut dissiper l'idée, et je vais le faire d'emblée, je vais le faire plus tard, il nous faut dissiper l'idée saugrenue, encore très répandue, je l'entends, bien sûr c'est pas dans la bouche du pasteur, mais j'entends des gens s'exprimer, selon laquelle le premier péché, celui qui a provoqué la chute, bon il y a des idiots qui disent qu'ils ont mangé une pomme, ils ont mangé une pomme et puis pas. Je parle pas de cette ignorance là, mais il y a des gens qui prétend que le péché initial, le fruit défendu qu'Adam et Ève ont mangé, qui a entraîné le malheur de l'humanité, aurait été l'acte sexuel et la volupté qui l'accompagnait, l'acte sexuel. Il est pourtant clair, d'après le texte biblique de Genèse 3, hein, même si je donne ce texte à un enfant de 7 ans ou de 8 ans, il comprendra que ce qui s'est passé là, ce n'est pas un acte sexuel. Leur problème était tout autre. Et nous avons bien analysé quel était le problème de l'humanité à ce moment-là. C'était quoi? Rébellion. Rébellion contre Dieu. Hein? Devenir comme des dieux. Hein? Avoir le droit de décider pour soi-même. N'avoir pas à rendre compte à Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu m'empêche de connaître le bien et le mal? Hein? Pourquoi est-ce que je n'ai pas cette latitude? Ce que j'appelle, moi, constamment, cette absurde velléité indépendantiste et prétentieuse de l'être humain, vouloir être comme Dieu. Et si, à la suite de la première désobéissance, l'homme et la femme prirent conscience qu'ils étaient nus, ce n'était pas parce que cela était honteux, non, mais parce que la volonté d'être comme des dieux avait nécessairement entraîné la chute et celle de voir l'autre désormais comme un objet de plaisir, un objet de désir, un objet de convoitise, quelqu'un à posséder, quelqu'un, et non plus comme un conjoint à aimer, à protéger et à entourer, ce n'était plus ça qui était en vue. Et on voit après coup que j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras la douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. C'était la convoitise égoïste qui a fait qu'ils se sont découverts nus. Le mal pour la Bible n'est pas donc dans la sexualité, mais dans le regard de convoitise égoïste, dans la volonté de posséder l'autre, dans la volonté de disposer de lui pour sa seule gratification personnelle. La sexualité aujourd'hui encore peut certes être une occasion de simple convoitise, et on va le voir. Retenons donc la substance de ma première analyse. La sexualité est voulue par Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme, mâle, femelle, homme, femme, pour qu'il y ait des relations entre eux, pour qu'il y ait des intimités entre eux. Deuxième remarque. La sexualité est créée par Dieu pour l'homme. Cette remarque n'est pas répétitive, elle est judicieuse. La sexualité, pour la Bible, fait partie de l'ordre de la création. Ne vous méprenez pas sur ce que je dis. La sexualité n'est pas divine. Hein, Dieu n'a pas besoin de cela. Et les anges n'ont pas besoin de cela. Et nous, dans l'éternité, nous n'aurons pas cela non plus, avec nos corps glorifiés. Donc la sexualité n'a rien de divin, n'a rien de sacré, elle est terrestre, elle est humaine, elle a été accordée à l'humanité, elle a été confiée par Dieu à l'homme et à la femme, et puisqu'elle n'est pas sacrée, elle ne doit donc pas être entourée d'une espèce de crainte religieuse, comme si c'était quelque chose de malsain. Il y a précisément un contraste frappant entre la Bible, le Dieu de la Bible, et les religions du monde ancien, de ces peuplades voisines d'Israël, avec toutes les perversions, toutes les turpitudes qui se manifestaient à l'intérieur de ces religions. Dans ces religions, comme dans beaucoup d'autres, la sexualité appartenait au monde des dieux. D'ailleurs, les dieux populaient dans ces religions-là. Elle avait un caractère sacré, que ce soit comme dieu de la fertilité, fécondité, ou comme passion, et il y avait culte de la fertilité, tous les Astartés, etc. C'était des déesses de la fertilité, hein, Diane des Éphésiens, l'Artémis, là, ça, le symbolisme par lequel on montrait sa fécondité, c'était plusieurs rangées de saints. Hein, on a des statues dans des livres de la Diane des Éphésiens, et puis ça s'accompagnait aussi de prostitution rituelle. Son usage donc devait suivre des rites prescrits sous peine de souillure. Alors là, on vient de parler de tabous sexuels dans ces fausses religions. Mais ce n'est pas le cas dans la Bible. On n'y trouve aucun mythe de caractère sexuel, aucun rite religieux réglementant la sexualité ou le mariage. Attendez-moi bien, je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de loi. Il y a des lois, c'est vrai. Mais il n'y avait aucun rite religieux. Et d'ailleurs, je me suis vraiment creusé les méninges, hein, à chercher dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ce que pouvaient bien signifier les mariages dits chrétiens. Bon, c'est bien d'avoir une bénédiction, mais c'est plus un engagement du mari vis-à-vis de son épouse, de l'épouse vis-à-vis de son mari, hein, qui est fait publiquement, qu'une espèce de bénédiction par l'Église d'une union. Ça, c'est du catholicisme, ça. Du catholicisme. Les hommes et les femmes de la Bible sont mariés sans avoir à passer devant un sacrificateur, sans cérémonie religieuse obligatoire pour préserver leur vie sexuelle de la souillure. Mais il y avait dans tous les cas d'espèce un contrat, une alliance, des promesses et un engagement. Dans tous les cas de figure, c'était ça. Se marier constituait une décision humaine responsable. Il n'est donc pas correct de parler de tabou sexuel à propos de la Bible. On peut parler de tabou sexuel à propos des religions, mais pas en ce qui concerne la parole de Dieu. La sexualité est créée par Dieu pour l'homme. Troisième remarque. La sexualité peut être très, très, très mal utilisée. On en a eu déjà au cours de cette journée plusieurs exemples. Les humains peuvent faire malheureusement un mauvais usage de tout. Je ne sais pas à qui je m'entretenais, je crois que le frère est parti là, le frère avec les cheveux gris là. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses, et il y a des choses qui sont pour Dieu à créer. Hein. Alors on dit, les drogues, certaines drogues sont nécessaires, dans la médecine, hein, sont nécessaires, bon. Mais l'usage que les hommes ont fait est tout autre. Dieu donne de bonnes choses et les hommes pervertissent ces bonnes choses. Alors les humains peuvent faire un très très mauvais usage de leur sexualité s'il n'y a pas de tabou. Il y a des lois. Les hommes et les femmes sont totalement responsables. J'insiste lourdement là-dessus, hein, parce que dans notre société, on cherche constamment à déresponsabiliser les êtres humains en disant, oh, ben, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute aux gènes, c'est la faute aux parents, c'est la faute à la société, c'est la faute à tout le monde sauf à l'individu. Non, l'homme est toujours totalement responsable de l'usage qu'il fait de sa vie et qu'il fait de sa sexualité. Et le fait que les hommes en aient fait un mauvais usage, un usage contraire à l'amour, hein, ne faut pas jeter le bébé avec l'eau, là, pourtant, avec l'eau du bain. Le viol est sans doute l'exemple le plus hideux que l'on trouve dans le cadre d'un acte hétérosexuel, le viol. Si au nom de la Bible, nous devons refuser une certaine sacralisation de la sexualité, l'attitude qui consisterait à l'enfourer d'une crainte religieuse, à y voir une souillure, à l'enfermer dans un cachot, comme cela s'est produit dans l'histoire des religions, doit être banni de notre vision de la sexualité. Nous devons refuser une autre sacralisation, et celle-ci est très présente aujourd'hui, Hein, elle est beaucoup plus perverse encore. Elle est tout droit issue du paganisme. C'est celle qui consiste à reconnaître à la sexualité tous les droits et de subir tous les dictats de ses pulsions sexuelles. À lui donner une valeur absolue. Une valeur absolue. Et notre société, évidemment, penche davantage dans la promiscuité sexuelle que dans la pudibonderie. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le sexe est omniprésent maintenant et apparaît souvent tout puissant. En tous les cas, il est tout puissant dans le monde des affaires. Et les lobbies se sont constitués et les gens sont sensibles maintenant. Du moment qu'il y a une montée là, de l'homosexuel, il y a des maisons, il y a des chiens hein, qui ont un langage très très pro-homosexualité. Au début des années 70, un médecin, et je vous cite ça à titre d'exemple, le docteur Carpentier, a rédigé un tract qui a été distribué dans plusieurs lycées. Heureusement, je n'y étais plus, moi. J'étais déjà à 70, j'avais presque terminé mes études de théologie, là. Mais ce docteur Carpentier a rédigé un tract qui a été distribué dans plusieurs lycées, et on y lisait ceci. Apprenez à faire l'amour. C'est le chemin du bonheur. En toute pratique sexuelle, la seule chose normale, c'est le désir que l'on a et le plaisir que l'on trouve. Ça ne nous fait pas bondir, ça ? Si on prend ces conseils au sérieux, on en arrive à tout justifier, là. Le viol, la pédophilie, l'homosexualité et absolument tout le reste. Si c'est qu'une question de désir et de plaisir, alors tout se justifie. On comprend mieux, alors, la réaction d'un ouvrier, hein, et il avait certainement plus de bon sens que des myriades de psy, là, un ouvrier a écrit dans Le Monde, non à l'acte sexuel qu'on prend quand on fume une cigarette, le temps de la fumer, puis le mégot qu'on jette. Non à cela. Il avait tout simplement ce qu'on appelle du bon sens. Il y a forcément un mauvais usage de la sexualité chaque fois que la force du désir conduit à user et à abuser d'un être humain comme d'un objet, comme d'un simple instrument de plaisir, ou d'en faire son esclave, alors, sadisme, masochisme, vous voyez où on les range. Hein. Il est vrai que cette déviation peut se produire même, je veux dire, où on prend son partenaire là, pour un objet de désir. Ce phénomène peut se produire dans un couple marié, vous en êtes conscient. Il y a certains hommes qui se sont conduits comme d'abominables yétis. Le fait de se marier ne libère pas le sexe de toute souillure. Les éléments que je vais vous apporter pourront sembler crus à certains d'entre vous. Qu'ils pardonnent mon audace, qu'ils me pardonnent immédiatement. Mais si j'utilise cet exemple, c'est par une autre finalité que d'expliquer ce que je viens de dire. Le fait de se marier ne libère pas le sexe de toute souillure. C'était Alain Decaux. Vous connaissez Alain Decaux, hein? Il passait à la télévision, il parlait de personnages historiques, etc. Alain Decaux raconte comment Victor Hugo a traité sa jeune femme, Adèle, je crois qu'elle s'appelait, lors de leur nuit de noces. Je cite Alain Decaux, hein, parce que ses paroles ne peuvent pas sortir de ma bouche. Je le cite. Serrant pour la première fois contre son corps celui de sa bien-aimée, il lui a prouvé 9 fois son désir. C'est beaucoup, c'est trop. Et là, tout à coup, ce qu'elle découvre, c'est un homme déchaîné, un vendangeur ivre, on dirait Lamartine. C'est sur une jeune épouse stupéfaite, éperdue, physiquement meurtrie, qu'il s'acharne. Elle a gardé de cette découverte très brutale de la sexualité une espèce d'horreur. Voilà quelqu'un qui a utilisé la sexualité simplement pour sa satisfaction propre. Et la femme était un objet de convoitise, à point que c'est tout. La soi-disant liberté sexuelle a créé une dangereuse tyrannie, en fait. Admettons-le, cette toute-puissance du désir n'est pas plus libératrice que les soi-disant tabous qu'on a voulu voir dans la tradition judéo-chrétienne. Cette liberté sexuelle peut être un moyen de réduire l'autre à une sorte d'esclavage. Je pense ici à 2 exemples semblables. L'un du film de Bertolucci, Le Conformiste, l'autre du roman de Michel Del Castillo, je ne vous donne pas ces références pour que vous les notiez, que vous alliez les voir et que vous alliez les lire. Mais dans les deux cas, on voit une femme trahir son mari, recherchée par une police politique, à cause de la domination sensuelle exercée sur elle par un homme qui a su si bien exacerber son désir sexuel qu'elle devient un jouet entre ses mains. Il y a là quelque chose de proprement diabolique. Le désir tyrannique qui corrompt les engagements et les loyautés. Dans le film, dans le livre, cette femme montre une déloyauté totale à l'égard de son compagnon. Alors les humains ne font certes pas preuve de liberté lorsque leur comportement n'est plus dicté par une volonté propre, une volition sagement, sainement encadrée par la parole de Dieu, mais lorsqu'elle est dictée simplement par des pulsions et des sécrétions glandulaires. La liberté pour l'homme et la femme consiste à demeurer pleinement maîtres de leurs désirs et de leur apporter la dimension de l'amour. Je me donne, non pas je prends, je me donne, je me livre, je recherche ton bien-être, je recherche ton établissement. C'est pourquoi la Bible reconnaît d'une part que la sexualité est bonne en elle-même, mais d'autre part qu'on peut en faire un très mauvais usage, et par conséquent elle doit être soumise à des lois. Elle doit être canalisée pour servir l'amour et non détruire l'amour. La véritable relation qui doit exister entre un homme et une femme, un mari et une épouse. Et la Bible place un cadre approprié pour l'expression de l'amour sexuel, je n'en démordrai jamais. Ce n'est pas avant le mariage, ce n'est pas en dehors du mariage, ce n'est pas dans une relation avec un être de la même du même genre que le nôtre. J'ai employé le verbe canaliser, qui est très important, canaliser. Un cours d'eau canalisé, qu'est-ce que tu fais? Moi, je me souviens de la Moselle. J'ai passé des lustres en Moselle. Je me souviens de la Moselle lorsqu'elle était simplement une rivière. Elle débordait constamment. Elle ne servait à rien. On ne pouvait pas l'utiliser comme voie navigable. Et puis un jour, on a canalisé cette rivière. Et un cours d'eau canalisé ne perd pas de sa force. Bien au contraire. Mais il cesse d'être un danger. Il cesse d'être un danger en limitant les risques de débordement, d'inondation qui détruisent récoltes et maisons. Et il en va de même pour la sexualité. Si l'on veut en faire un bon usage, il faut savoir quel est son but. Quel est son but? Alors, il ne va pas vous retenir votre souffle, parce que c'est quelque chose que j'aborderai ce soir seulement. Quelle est sa raison d'être? Quel est son sens? Pourquoi? Quelle est la finalité? Pourquoi la sexualité? Alors, il y a des gens qui ont des idées tordues, disent la sexualité, c'est simplement pour la procréation. Moi, je crois qu'il y a une dimension supérieure à cela. Et j'ai la conviction que c'est dans la Bible, mieux que nulle part ailleurs, que nous allons pouvoir trouver des réponses à ces questions essentielles, celles du sens de la sexualité. Et là, je conclue donc ma troisième remarque, que la sexualité peut être aisément abusée. Aisément abusée. Alors, tout à l'heure, 20h, 20h30, nous allons avoir une deuxième réunion et nous allons voir le sens de la sexualité. Et pour sur ce match, sûrement, j'arriverai bien à l'aise. Je crois que je vais le faire, parce que moi, je suis quelque chose. J'ai vraiment très fort. Le Seigneur Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu nous arracher à notre misère. Mais c'est pas contenté simplement de régler le problème que nous avions par rapport à l'éternité. Vous saviez que nous étions privés de la gloire de Dieu. Nous étions dans cette mort spirituelle qui nous séparait de Dieu. Non, Jésus-Christ va bien au-delà de cela. Et il veut une relation avec chacun d'entre nous. Il veut que nous soyons enrichis de ce qu'un jour, lui, se soit appauvri, se soit dépouillé de cette prérogative divine, de son de l'utilisation indépendante de ses attributs divins, Jésus-Christ est appauvri pour que nous soyons enrichis. En fait, il dit, je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il veut nous donner la vie, mais pas simplement la vie. Si vous avez une vie chrétienne médiocre, je suis vraiment désolé pour vous. C'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans vos relations avec le Seigneur. Vous avez une vie chrétienne où vous vous sentez mal à l'aise et vous dites, oh, c'est seulement, je ne sais pas, est-ce que j'ai fait le bon choix, etc. Je crois que malheureusement, il y a des choses importantes à corriger dans votre vie. Le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner la vie en abondance. Moi, depuis que je suis chrétien, j'éprouve une vive joie, j'éprouve une espèce de qualité de vie que je n'avais pas lorsque j'étais inconverti. J'apprécie davantage la nature, j'apprécie davantage la musique, j'apprécie davantage tout ce qui est beau, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est droit. Et c'est le Seigneur qui a amené ça dans ma vie. Et l'enseignement qu'il m'a apporté à travers sa parole a corrigé les idées tordues que j'avais concernant la sexualité, le mariage, l'amour, etc. J'avais des idées tordues. Ces idées tordues me venaient premièrement de mon milieu. Et me venaient aussi des centaines et des centaines et des centaines de livres que j'avais lus. Parce que j'étais... Moi, je suis né à l'époque où il n'y avait pas de téléviseur. Donc on jouait au foot et puis on lisait. J'ai fait les deux. J'ai apprécié les deux. J'ai lu beaucoup de livres.